France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Recevoir son rendez-vous avec l'histoire. C'est Jacques Madaul qui produisait en 1965 l'émission que nous allons entendre il y a 25 ans, le 18 juin 1940. Jacques Madaul, écrivain, historien, né à Castelnaudary. La guerre était perdue en Europe mi-juin 1940. Et Jacques Madaul, avant de nous faire entendre les nombreux témoignages de résistants, proposait une longue introduction d'historien, une remise en perspective. Voir clair, trouver les mots, trouver l'accent, l'appel du 18 juin n'était pas qu'un simple acte intellectuel, mais un acte de volonté et de foi, une confiance, un espoir. On connaît la suite. Première diffusion sur France Culture, comme il se doit, le 18 juin 1965.
Il y a 25 ans, le 18 juin 1940, une émission historique composée par Jacques Madaul et présentée par France Culture pour le 25e anniversaire de l'appel du 18 juin. Avec les témoignages de Emmanuel Dastier de la Vigerie, Max Bégoin, Georges Kataoui, du général Catroux, de Madame Francisque Gay, Roger Langeron et Maurice Schumann. Texte lu par Michel Sansnahor. Document sonore de la phonothèque centrale de l'ORTF. Assistant de production Jacques Devin. Réalisation Paul Ventre.
L'appel du 18 juin 1940 fut essentiellement un acte historique. Et c'est pourquoi un recul d'un quart de siècle, un recul de 25 ans, n'est pas inutile pour que nous soyons enfin à même de mesurer l'exacte portée de cet acte. Quelle était la situation de la France au jour où le général de Gaulle a lancé cet appel dont nous célébrons le 25e anniversaire ? Eh bien, la France venait de subir l'une des plus graves, l'une des plus profondes, en apparence, l'une des plus totales défaites de sa longue histoire. Si on veut se reporter dans le passé, je ne vois guère que la situation de la France au XVe siècle, au moment où Jeanne d'Arc éleva son étendard et entreprit la reprise d'Orléans. Comme alors, le pays était en grande partie occupé par l'ennemi. Comme alors, le gouvernement officiel de la France était un gouvernement qui ne songeait qu'à faire la paix avec l'ennemi et qu'à s'entendre avec ceux qui l'avaient vaincu. Comme alors aussi, il se trouva quelqu'un qui reprit, en quelque sorte, le destin séculaire de la France. Quelqu'un qui, comme il l'a dit à plusieurs reprises lui-même, reçut ce jour-là son rendez-vous avec l'histoire. Et c'est précisément de cette position de l'appel du 10 juin dans l'histoire de notre pays que je voudrais aujourd'hui vous entretenir quelques instants avant d'entendre les témoignages qui l'entoureront et qui lui rendront en quelque sorte au bout de 25 ans la vie. Tout d'abord, observons que cette date du 18 juin n'est pas seulement l'anniversaire de l'appel fameux, mais qu'elle est aussi un autre anniversaire. et même le 150e anniversaire en cette année 1965 de la défaite de Waterloo. Il n'est pas nécessaire d'insister longuement sur les changements prodigieux qui se sont produits entre 1815 et 1940. La disposition même des forces et des alliances était alors profondément différente. Le 18 juin 1815, nous avons été battus par la conjonction de l'armée de Wellington et de l'armée de Blücher, c'est-à-dire par la conjonction des Anglais et des Allemands qui étaient alors également nos ennemis. Depuis, cette coalition s'est brisée et de nouvelles constellations se sont formées. Aux côtés de la France combat l'Angleterre, et ce n'est pas la première fois. Déjà de 1914 à 1918, l'Angleterre avait été notre constant allié. Il y a donc d'un côté la France et l'Angleterre, de l'autre côté l'Allemagne. Et par conséquent, il n'est plus question que Blücher vienne cette fois au secours de Wellington. Mais l'Angleterre sur terre, en Europe, est battue le 18 juin 1940 au moins autant que la France elle-même. Elle s'est repliée sur son île, elle s'est repliée sur la mer, elle s'est repliée sur ses communications planétaires dont elle a été pendant tant d'années et même tant de siècles le centre. Elle a enfin à sa tête un homme qui est décidé à ne pas céder quoi qu'il arrive. Et même si les forces terrestres allemandes viennent à attaquer le sol anglais, elle a noué avec la France une alliance que l'on pourrait croire indéfectible. Tout récemment encore, la France et l'Angleterre ont décidé de ne jamais traiter séparément. Et par conséquent, quel que puisse être le sort de la bataille sur terre, nous pouvons penser que la bataille continuera ailleurs, qu'elle continuera sur mer, qu'elle continuera dans les territoires d'outre-mer, mais que la France ne manquera pas à la parole qu'elle a donnée à l'Angleterre et que l'Angleterre aussi lui a donnée. Tel avait été le sentiment du gouvernement français jusqu'au moment où une opposition très forte se fit sentir à l'intérieur même de ce gouvernement. Paul Reynaud avait cru bien faire d'introduire le maréchal Pétain avec sa gloire de vainqueur de Verdun dans son gouvernement. Mais il s'est trouvé que le maréchal Pétain était alors l'instrument de toute une faction qui s'était déjà manifestée derrière Laval quelques mois auparavant, lors de cette fameuse majorité du Vendredi Saint qu'avait eu le gouvernement Reynaud et qui avait été une majorité d'une voix. Pour tous ces hommes, la guerre avait été mal engagée, aussi mal engagée que mal conduite, et il fallait de toute nécessité cesser le combat. C'est sur la discussion tragique de la position à prendre que s'était brisé le gouvernement de Paul Reynaud. Lorsque le président Lebrun avait fait appeler aussitôt le maréchal Pétain, chef de l'opposition, pour lui offrir le gouvernement, le maréchal Pétain avait tiré de sa poche la liste de son ministère toute constituée et déjà il préparait la demande d'armistice. Par conséquent, la France officielle cessait le combat, la France officielle entrait en relation avec l'ennemi et manquait ainsi à la parole qu'elle avait donnée à l'Angleterre. Je n'entrerai pas dans le détail des raisons, des motifs ou des prétextes qui purent prétendre justifier cette attitude. Mais en tout cas, telle était la situation le 16 juin 1940, au moment où le maréchal Pétain, à la surprise générale, allait lancer le message qui annoncerait à la France qu'il fallait cesser le combat. Il y a eu, sur cette attitude de Pétain, un très profond malentendu. Je me rappelle moi-même que, me trouvant alors dans le fin fond du Midi, je rencontrais le matin du 16 juin un ami qui me dit « Eh bien, le maréchal Pétain prend le pouvoir, c'est la résistance jusqu'au bout ». Je lui répondis, parce que j'étais un peu mieux informé, que ça n'était pas la résistance, mais la capitulation. Naturellement, il n'en voulait rien croire. Et ce qui rendit cette capitulation particulièrement dangereuse, c'est précisément qu'elle était demandée, non pas par un politicien quelconque comme Laval, qui eût été absolument incapable d'entraîner derrière lui le pays et les possessions d'outre-mer, mais par un homme qui était devenu, en quelque sorte, depuis la guerre de 1914-1918, une espèce de héros légendaire, et comme devait me le dire un jour un de mes élèves, d'une façon un peu maladroite, un spécialiste en fait de patriotisme. On n'a jamais rien trouvé de mieux, en effet, pour couvrir une défaite que de faire appel à un héros fatigué. Telle était donc la situation dans laquelle la France se trouvait en ce milieu de juin 1940. Mais si la guerre était effectivement perdue en Europe, si elle était effectivement perdue sur le territoire français, elle était bien loin de l'être ailleurs où elle n'était même pas commencée. Une affiche dont on s'est beaucoup moqué pendant le régime de Vichy disait que nous gagnerions parce que nous étions les plus forts. Et cette affiche montrait aux yeux des Français une carte du monde. Une carte du monde dans laquelle on voyait l'extraordinaire importance des possessions françaises et des possessions anglaises. Il était évident pour des esprits clairvoyants, mais ces esprits clairvoyants étaient rares, qu'une grande guerre en Europe en 1940, ne pouvait pas se régler exclusivement en Europe, car en réalité, elle concernait le monde entier. Or, il y avait dans le reste du monde des forces qui demeuraient intactes, qui étaient précisément les forces des possessions d'outre-mer de la France et de l'Angleterre. Il y avait cette flotte anglaise qui demeurait encore maîtresse des mers. Il y avait enfin, à l'arrière-plan, les États-Unis de Roosevelt, qui, certes, n'étaient pas encore engagés dans la guerre et n'étaient pas prêts de s'y engager, mais qui, du moins, manifestaient par toute espèce de gestes et de gestes effectifs leur solidarité avec les démocraties françaises et anglaises qui avaient été provisoirement vaincues. Par conséquent, si la guerre avait continué, si la France avait été maintenue dans la guerre, il y avait encore pour elle de très grands espoirs. Mais ces espoirs ne pouvaient se matérialiser que dans la mesure où un homme, et un homme ayant à la fois assez de clairvoyance et de prestige, pourrait les présenter non seulement à la nation française, mais au monde tout entier. Cet homme, ce fut le général de Gaulle. Et la grandeur particulière qui a été la sienne à ce moment-là, au moment où il a lancé l'appel du 18 juin, ça n'a pas été seulement de voir clair. Peut-être en effet, y avait-il d'autres personnes, il y avait sûrement d'autres personnes qui voyaient clair comme lui. Mais ça a été de trouver les mots, ça a été de trouver l'accent qui donnerait consistance à cette vision clairvoyante et audacieuse de la réalité et de l'avenir. L'appel du 18 juin, ce n'est donc pas seulement un acte purement intellectuel, mais c'est aussi un acte de foi et un acte de volonté. Sans doute y avait-il à tenir compte de tous les éléments d'une situation extrêmement complexe, mais il y avait aussi, et il y avait surtout, à affirmer une confiance, un espoir qui ne serait pas seulement fondé sur des réalités immédiates, mais qui serait aussi fondé sur les enseignements d'une très longue histoire. Si, au début de cette émission, j'ai cru devoir rappeler un peu singulièrement peut-être l'anniversaire de Waterloo, c'est parce que, précisément, la France a eu, au cours de son histoire, l'habitude de ces grandes défaites, dont il est toujours arrivé qu'elle ressortit au bout d'un certain temps. Il y a une sorte de puissance de rejaillissement, il y a une sorte de puissance de rebondissement, il y a une puissance de résurrection dans la nation française qui ne pouvait faire à ce moment-là que l'objet d'une foi, mais l'objet d'une foi aussi solide, l'objet d'une foi aussi vigoureuse, l'objet d'une foi aussi impossible à entamer qu'il était possible. Et c'est ainsi que l'appel du 18 juin va être en quelque sorte comme le catalyseur autour duquel des forces éparses, autour duquel des forces qui se connaissaient encore mal elles-mêmes vont peu à peu se regrouper. Cette France qui, pour ainsi dire, n'existait plus. Il s'agissait de lui insuffler l'existence qu'elle devait avoir. Et cette existence que la France devait avoir, ce n'était pas seulement à ses propres yeux qu'il fallait qu'elle l'eût, mais c'était aussi aux yeux du monde. Non seulement aux yeux de nos alliés anglais, mais également aux yeux des puissances neutres ou de celles comme les États-Unis d'Amérique ou comme l'Union soviétique qui allaient demain ou après-demain entrer dans la guerre. Quand le général de Gaulle lance son appel du 18 juin, il sait bien que cet appel est d'abord, que cet appel est avant tout adressé aux Français, mais c'est un appel qui, par-dessus la tête des Français, doit atteindre également tous ceux qui, dans le monde, sont amis de la France ou tous ceux qui, dans le monde, ont un intérêt évident à ce que la France ne soit pas réduite pour jamais à être un État satellite et un État de second ordre. Il faut tout de même se rendre compte de ce qu'était l'immense prestige de la France dans la plus grande partie du monde. Bernanos, par exemple, lorsqu'il se trouvait exilé au Brésil, nous rapporte l'histoire de ce Brésilien à l'agonie qu'il lui est arrivé de rencontrer dans les jours qui ont suivi la chute de Paris et qui mourait en disant « Paris, Paris, Paris ». Il y avait là, en effet, une sorte d'attente qui n'était pas seulement l'attente des Français, mais qui était d'une sorte de manière l'attente du monde entier. Et en face de cette attente, un trou béant, une lacune, le vide. Eh bien, ce vide, le général de Gaulle, le 18 juin 1940, l'a rempli. Et parce qu'il l'a rempli, il se trouve lié à jamais, comme un certain nombre d'autres héros nationaux, à la continuité de l'histoire de France. Et maintenant, nous allons entendre deux voix bien différentes. D'une part, celle du vieux soldat fatigué, qui a consenti à couvrir la capitulation des étoiles de son bâton de maréchal. Et d'autre part, celle du jeune général, il n'est même général de brigade qu'à titre temporaire, qui, de Londres, au nom de la France, au nom d'innombrables générations de Français et devant le monde, relève le défi. Voici d'abord le maréchal Pétain.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités.
Presque aussitôt après la voix sénile que vous venez d'entendre, s'en éleva une autre, à Londres, celle du général de Gaulle, qui, dans son appel du 18 juin, que malheureusement nous ne pouvons pas reproduire ici parce qu'il n'a pas été enregistré, déclarait « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. » Et dès le lendemain, il déclarait encore « Il ne serait pas tolérable que la panique de Bordeaux ait pu traverser la mer. » Et enfin, le 22 juin, résumant et reprenant ce qu'il avait dit le 18 et le 19 juin, il déclarait ceci que vous allez entendre intégralement, car cet appel du 22 juin, à la différence des deux précédents, a été enregistré.
Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises de terre, de mer et de l'air seraient entièrement démobilisés, que nos armes seraient livrées, que le territoire français serait totalement occupé et que le gouvernement français tomberait sous la dépendance de l'Allemagne et de l'Italie. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Or, Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude pour des raisons qui s'appellent l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie. Je dis l'honneur, car la France s'est engagée à ne déposer les armes que d'accord avec ses alliés. Tant que ses alliés continuent la guerre, son gouvernement n'a pas le droit de se rendre à l'ennemi. Le gouvernement polonais, le gouvernement norvégien, le gouvernement hollandais, le gouvernement belge, le gouvernement luxembourgeois, quoique chassés de leur territoire, ont compris ainsi leur devoir. Je dis le bon sens, car il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, un système militaire mauvais, les fautes commises dans la conduite des opérations, l'esprit d'abandon du gouvernement pendant ces derniers combats nous ont fait perdre la bataille de France. Mais il nous reste un vaste empire, une flotte intacte, beaucoup d'or. Il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. Il nous reste les gigantesques possibilités de l'industrie américaine, les mêmes conditions de la guerre qui nous ont fait battre par 5000 avions et 6000 chars peuvent nous donner demain la victoire par 20000 chars et 20000 avions. Je dis l'intérêt supérieur de la patrie. Car cette guerre n'est pas une guerre franco-allemande qu'une bataille puisse décider. Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Même les alliés de l'Allemagne resteront-ils toujours ses alliés? Si les forces de la liberté triomphent finalement de celles de la servitude, quel serait le destin d'une France qui se serait soumise à l'ennemi? L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Qui donc était ce général de Gaulle qui venait de s'exprimer de Londres avec une autorité si singulière et, on peut bien le dire, si souveraine? Je ne vais pas retracer ici sa carrière. Je dirai simplement qu'il avait été, entre les deux guerres, l'un des hommes qui avait le mieux compris quelle tactique et quelle stratégie l'armée française aurait dû adopter si elle avait voulu faire face victorieusement à l'attaque qui paraissait de plus en plus certaine à laquelle se préparait l'Allemagne de Hitler. Et c'est ainsi qu'il était entré in extremis comme sous-secrétaire d'État dans le cabinet de Paul Reynaud, après s'être conduit d'une façon particulièrement efficace au commandement de sa troupe de chars dans la bataille de France. À part cela, il était à peu près inconnu de la majorité des Français. Et lui-même a dû éprouver, comme il nous l'indique dans ses mémoires de guerre, une certaine surprise de se voir ainsi, lui, l'officier discipliné, promu à une destinée hors de pair.
Je n'étais rien au départ. À mes côtés, pas l'ombre d'une force ni d'une organisation. En France, aucun répondant et aucune notoriété. À l'étranger, ni crédit, ni justification. Mais ce dénuement même me traçait ma ligne de conduite. C'est en épousant sans ménager rien la cause du salut national que je pourrais trouver l'autorité. C'est en agissant comme champion inflexible de la nation et de l'État qu'il me serait possible de grouper parmi les Français les consentements, voire les enthousiasmes, et d'obtenir des étrangers respect et considération. Les gens qui, tout au long du drame, s'offusquèrent de cette intransigeance, ne voulurent pas voir que pour moi, tendu à refouler d'innombrables pressions contraires, le moindre fléchissement eût entraîné l'effondrement. Bref, tout limité et solitaire que je fusse, et justement parce que je l'étais, il me fallait gagner les sommets et n'en descendre jamais plus. La première chose à faire était de hisser les couleurs. La radio s'offrait pour cela. Dès l'après-midi du 17 juin, j'exposais mes intentions à M. Winston Churchill. Naufragé de la désolation sur les rivages de l'Angleterre, qu'aurais-je pu faire sans son concours? Il me le donna tout de suite et mit, pour commencer, la BBC à ma disposition. Nous convînmes que je l'utiliserais lorsque le gouvernement Pétain aurait demandé l'armistice. Or, dans la soirée même, on apprit qu'il l'avait fait. Le lendemain à 18h, je lus au micro le texte que l'on connaît. À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même se terminer une vie. Celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries.
Voyons maintenant, car c'est absolument essentiel, de quelle façon l'appel du général de Gaulle fut entendu en France, à l'étranger et outre-mer. Nous allons donc écouter un certain nombre de témoins de l'appel du 18 juin et d'abord Emmanuel d'Astier.
Oui, le 18 juin 1940 signifie beaucoup pour nous maintenant. Il ne signifiait rien pour un homme de 1940. Pourquoi ? Parce que, pour ce que j'ai vu, pour autant qu'un témoignage vaut, dans mon entourage et parmi les gens que j'ai vus, personne ne l'avait entendu. J'étais moi-même allé à Paris, étant marin, pour contacter le 14, le ministère de la Marine, et savoir ce que l'on faisait. Eh bien, c'était la débâcle totale et le désordre total. Et j'étais revenu de Paris, les Allemands y entrant, pour revenir à Saint-Nazaire, où j'étais, où je commandais, si on peut dire commandais, le centre de renseignement maritime, avec un refus total de faire aucune espèce de guerre. On était dans les cafés à boire. Et je suis entré dans un café le 16 ou le 17, j'ai tourné le bouton de la radio et nous avons entendu le discours du maréchal Pétain, qui répondait évidemment mieux aux vœux de l'ensemble de la nation française que le discours du 18 juin qui lui-même n'a pas été entendu. Et je dois dire que quand je cherche dans ma mémoire, je me rappelle le périple que j'ai fait. Je suis parti d'abord en bateau avec mon centre le long des côtes, cherchant une évasion, puisqu'il n'y avait rien en France, se disant « est-ce que c'est l'Afrique, est-ce que c'est l'Angleterre, est-ce que c'est un coin de France ?» Trouvant les Polonais sur la côte sud-ouest, le départ bouché, les Allemands qui descendaient aussi de leur côté par Dax, et puis j'ai suivi la frontière pyrénéenne et je suis arrivé à Port-Vendres. Pourquoi Port-Vendres ? Port-Vendres était le point de repli du 5e bureau de la marine auquel j'appartenais avec le commandant Chevalier, qui était beaucoup plus anti-anglais qu'anti-allemand, comme souvent dans la marine. Par tradition, enfin, Trafalgar, n'est-ce pas, c'est une chose qui, plus d'un siècle après, comptait beaucoup. Et alors, dans ce centre de renseignement qui était installé, je m'excuse de le dire, dans le bordel de Port-Vendres, dont on avait chassé les dames qui exerçaient dans cette maison, on parlait de ne rien faire et on n'avait pas encore prononcé ni le nom d'Angleterre, qui était une ennemie, ni le nom de Gaulle. Et je crois que c'est soit à Port-Vendres, soit peut-être à Marseille, où j'ai été me faire démobiliser quand je voyais que l'armée et la marine ne voulaient plus rien faire, que j'ai entendu d'abord le nom de Gaulle et les termes d'une espèce d'espoir, de résistance et de poursuite de la bataille contre les Allemands.
Oui, mais alors, il y avait, chez un certain nombre de gens, même s'ils ne représentaient pas la majorité, la volonté de faire quelque chose. Si bien qu'il me semble qu'on pourrait dire que l'appel du 18 juin est venu à la rencontre de cette volonté spontanée sur laquelle j'aimerais que Dastier nous dise encore quelques mots.
Il est évident que, ne soyons pas trop pessimistes, il y a eu dans certains secteurs, d'ailleurs quelquefois, je veux le dire, on est un peu injuste en oubliant qu'il y avait deux formes de résistance qui se sont noués au début, et moi j'ai eu un patriotisme que j'ai perdu après 25 ans, il y a eu la forme de ce que l'on appelle les réseaux, c'est-à-dire des hommes qui individuellement, groupés, venant quelquefois des superstructures de l'État, se sont mis au travail pour fournir des réseaux d'évasion, des réseaux de renseignement, puis des réseaux d'action. Et puis il y a eu une petite voix minuscule, voix basse, que j'appelle de la rue, qui puisait ces éléments, au contraire, alors dans des éléments paysans, des éléments intellectuels, intellectuels avant tout d'ailleurs, ce sont les intellectuels qui ont été les premiers à bouger, et puis ensuite, après, des éléments ouvriers. Et ceci s'est exprimé dès les premiers jours, sans connaître de Gaulle. Naturellement, à Paris, des hommes comme Texier, quand il fondait le fameux premier petit journal qui s'appelait Les Conseillers à l'Occuper, lui connaissait de Gaulle. Mais nous, dans le Sud, nous ne le connaissions pas. Et nous ne connaissions pas parce que nous n'étions pas des hommes politiques, d'ailleurs, ni les uns ni les autres, et que pour nous, le nom de ce secrétaire d'État qui était arrivé in extremis au 5 juin, qui était connu des spécialistes, mais pas de nous, était totalement inconnu. Il était une image, il a eu la chance de s'appeler de Gaulle, Gaulle et France, ce qui a donné un retentissement beaucoup plus rapide, mais sans ça, c'était pour nous comme n'importe quel autre général ou comme n'importe quel autre ministre. Et alors, il y a eu donc une action spontanée très limitée, extrêmement faible, qui est allée à la rencontre, ou de Gaulle est allé à la rencontre de cette action. Voilà ce que l'on peut dire sur le 18 juin.
Eh bien, je vous remercie infiniment, Dastier. Vous m'avez rappelé, du reste, ce que disait un bourgeois de chez moi, vers la même époque, il n'y a que vous et les pantres, c'est-à-dire les paysans, qui soyez pour les Anglais.
C'est assez exact.
Nous venons d'entendre un officier de marine patriote qui se heurte partout à travers la France qu'il parcourt pour chercher quelque chose à faire, où il pourrait s'insérer. Il se heurte à une volonté de ne rien faire. Et maintenant, nous allons entendre le préfet de police, Roger Langeron, qui était, lui, demeuré à son poste et qui continuait, dans des conditions difficiles, à remplir ses fonctions. Il a appris le matin du 16 juin la formation du gouvernement Pétain. Il croit que ce gouvernement Pétain va organiser la résistance jusqu'au bout. Et maintenant, écoutez-le.
Est-ce donc une veillée d'armes ? Hélas, pas pour tout le monde. À midi, à la radio, sinistre message de la plus haute autorité gouvernementale de l'État français. Je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Stupeur, désarroi, que seront les jours suivants ? Y aura-t-il encore une déception nouvelle ? Non, le mardi 18 juin sera un très grand jour. Une voix nous arrive de Londres, claire, un peu rude, c'est la voix du général de Gaulle, éclatante de patriotisme et de foi.
Après le préfet de police, après l'officier de marine, et qui, après tout, l'un ni l'autre n'ont entendu de leurs oreilles l'appel du 18 juin, voici trois témoignages de gens qui, eux, l'ont entendu. L'un de ces témoignages est d'un mort. Il s'agit de Francisque Gay. Mais Madame Francisque Gay a bien voulu nous rappeler dans quelles circonstances et comment son mari avait écouté l'appel du 18 juin.
Nous avions reçu chez nous M. Houben, qui était à la tête du Mass Boat, qui était un grand journal hollandais, très connu, le Mass Boat. Et il était là avec ses 5 enfants et sa femme. Nous les avions emmenés avec nous dans le Cher où nous nous étions repliés. Et ce brave Houben ne pensait qu'aux événements. Et toute la journée, du matin au soir, il était à la radio. Et c'est lui qui, le 18 juin, tout d'un coup, a appelé mon mari, a dit « Monsieur Gay, venez, venez, écoutez, écoutez ». Ils ont donc écouté tous les deux. Moi, je n'ai pas écouté en plus. Il n'y avait pas la place pour plusieurs, peut-être. Mais enfin, ils ont écouté l'appel du 18 juin. Avec toute l'émotion qu'on peut deviner. Et pour en finir avec ce pauvre monsieur Houben, il est resté avec nous, puis il avait tellement le désir de retourner en Hollande qu'il a appris à conduire pour pouvoir prendre une petite voiture. Pourtant, il y avait guère d'essence. Oui, on s'est cotisé pour acheter cette petite voiture et de l'essence. Et sans bien savoir, il est reparti, malheureusement. Et quelque temps après, il a été fusillé par les Allemands en Hollande. Malheureux.
Et comme le général de Gaulle n'était pas du tout un inconnu pour Francisque Gay, puisqu'il avait antérieurement publié un article dans l'Aube sur l'armée de métier, alors nous aimerions savoir quelles ont été les réactions de Francisque Gay lorsqu'il a entendu le général de Gaulle qu'il connaissait lancer de Londres l'appel du 18 juin.
Ça correspondait absolument à ce qu'il pensait. Il disait toujours, en parlant de Pétain, ce vieux, est-ce qu'on ne va pas le fusiller? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le supporter? Enfin, voilà ce qu'il disait, même un peu fort. Quand nous étions allés de Paris à Mélon pour nous replier là-bas, nous étions allés en voiture, il conduisait la voiture et il n'a pas arrêté de pleurer. Il était humilié d'une façon profonde. Par conséquent, ce mot du 18 juin a révélé ce qu'il pensait.
Et voici maintenant Maurice Schumann, qui avait eu, lui aussi, la chance d'entendre l'appel du 18 juin. Il va nous dire dans quelles circonstances il l'a entendu.
Dans des circonstances dramatiques, fortuites ou plutôt providentielles. Cela se passe à Niort. La veille, 17 juin, j'étais en gare de Rennes, affecté à une unité britannique avec laquelle j'avais fait d'abord les combats puis la retraite. Cette unité a été atrocement décimée par le bombardement de la gare de Rennes. C'est par miracle qu'il y eut quelques survivants. Je les accompagnais, comme il était de mon devoir, à Saint-Nazaire. Certains de mes camarades voulaient m'inciter à m'embarquer avec eux. Je me rappelle fort bien, d'ailleurs, le débat de conscience qui me déchira au matin du 18 juin sur le môle du port de Saint-Nazaire. Finalement, mon sentiment fut que je n'avais pas le droit de quitter le sol national, parce que je ne savais pas s'il n'y aurait pas une résistance française quelque part, soit en métropole, soit plus probablement outre-mer. Le soir, à Niort, dans l'état de désarroi, de désespoir où je me trouvais, ayant en poche un ordre de mission qui me commandait de rejoindre un camp où les officiers de liaison auprès des unités britanniques étaient regroupés, j'entendis, dans l'arrière-boutique d'un café, une voix que je connaissais déjà, point extrêmement important, car à une époque, mon cher Jacques Madaule, où nous travaillions ensemble, j'avais connu un illustre ami de temps présent, illustre pas encore, il l'est devenu depuis lors, le colonel de Gaulle, et plus précisément, ayant collaboré à la collection Présence que dirigeait notre ami Daniel Rops, j'avais, à Metz, été présenté à l'auteur du livre publié dans cette collection, qui s'appelle « La France et son armée ». J'ai eu à ce moment-là le sentiment que l'homme qui avait lancé avant la guerre des avertissements que vous savez au sujet de l'armée cuirassée, et auxquels les événements venaient de donner, hélas, tragiquement raison, était celui dont la voix devait être entendue à ce moment-là. Et qu'il y avait, au sens propre du terme, une rencontre providentielle dans le fait qu'en un pareil lieu, en un pareil jour, en une pareille heure, sa voix venait jusqu'à moi. Et alors, je fus instantanément libéré de l'hésitation qui m'avait torturé le matin même à Saint-Nazaire. Parce que la voix du général de Gaulle me donnait la certitude qu'une structure d'accueil, frêle sans doute, mais française, s'était implanté à Londres. J'ai la conviction que si j'avais dû me rendre en Angleterre pour m'y enrôler dans l'armée britannique, par exemple, je n'aurais pas traversé la mer le 21 juin pour parvenir en Angleterre le 28 et pour signer mon engagement dans les forces françaises libres, parmi les premiers, dans les premiers jours de juillet. C'était la continuité d'une présence française dans la guerre que j'attendais. C'était la continuité d'une présence française dans la guerre que m'assurait la voix du 18 juin. Je crois que c'est la signification profonde, nécessaire et suffisante du gaullisme.
Et quel a été autour de vous, pendant les quelques jours que vous avez encore passés en France avant de partir pour l'Angleterre, la réaction à cet appel du 18 juin chez ceux qui l'avaient entendu ou qui en avaient entendu parler?
Je n'étais pas seul, Agnès. J'étais avec trois camarades. Je leur ai dit ce que j'avais entendu, car ils ne l'avaient pas entendu eux-mêmes. Qui, à vrai dire, eux, étaient résolus à gagner l'Angleterre, quoi qu'il arrive. Puis nous l'avons lu, car il faut savoir que la presse française du Sud-Ouest paraissait encore le 19 juin, et que l'appel du général de Gaulle a été imprimé le 19 juin dans ses journaux. Et nous l'avons répandu et diffusé autour de nous. Et je dois dire que c'est peut-être à cause des propos que nous avons tenus, prudemment sans doute, n'étonnions pas à n'importe qui, mais aux officiers ou aux sous-officiers, et même dans de rares circonstances, aux soldats que nous entendions sur notre route tenir des propos analogues à ceux que nous tenions nous-mêmes, et obéir à des desseins profonds analogues à ceux qui nous guidaient nous-mêmes, que nous avons réussi à en entraîner un certain nombre avec nous. Restait à trouver un moyen de partir. Je l'ai trouvé personnellement dans la matinée du 20 juin au consulat de Grande-Bretagne à Bayonne. Entre Niort et Bayonne, nous avions entre le soir du 18 et la matinée du 20 parcouru un trajet long et difficile. Mais le 20, dans la matinée, nous sommes rendus au consulat d'Angleterre et je n'ai pas eu à être reçu par le consul. Il y avait d'ailleurs là une foule énorme, car j'ai rencontré dans le vestibule un officier blessé et évadé, le capitaine de Chevigné, qui m'a donné une filière. J'ai conduit mes camarades par cette filière jusqu'à un officier anglais qui, se trouvant dans une petite maison de Saint-Jean-de-Luz, nous a indiqué les moyens de prendre place sur un bateau polonais. Nous sommes partis le 21 juin, au soir, et après une traversée fort mouvementée d'ailleurs, nous sommes arrivés en Angleterre. La plupart des Français qui étaient avec moi sur ce bateau sont d'ailleurs, je dois le dire, au cours des années suivantes, morts pour la France. Et je veux rendre à cette occasion un hommage tout particulier à Pierre de Chevigné, qui a voulu rester jusqu'au dernier moment, qui ne s'est pas embarqué, lui, sur un des bateaux polonais, qui, dès ce moment-là, a choisi la voie la plus difficile, qui, grâce à ses amitiés béarnaises et basques, a traversé les Pyrénées. Et voyez-vous, il arrive que la vie ressemble au rêve. Quand j'ai participé au débarquement à l'aube du 6 juin 1944, mon chef était le colonel de Chevigné.
Nous allons maintenant quitter la France. Et tout d'abord, nous transporter au Maroc, où Max Béguin se trouvait à ce moment-là au sud de l'Atlas, sur la face saharienne de l'Atlas, et c'est là qu'il a entendu l'appel du général de Gaulle, comme il va nous le dire.
J'avais quitté Paris au moment où la drôle de guerre se traînait pour remettre en route une usine que nous avions dans l'Atlas, sur le versant saharien de l'autre côté du Tizi Ntichka. J'avais embauché 84 Marocains et je faisais tourner l'usine tout seul avec un mécanicien. Lorsque tout d'un coup, un jour, le lieutenant qui commandait le poste vint me trouver et me dit « Est-ce que vous pouvez rester impassible au moment où je vais vous annoncer une nouvelle ?» Je lui répondis que oui, et il m'a pris « Paris est pris ». Je dois dire que, face à tout le personnel de l'usine qui nous surveillait évidemment, le coup fut extrêmement dur et, dès la fermeture des ateliers, nous nous précipitâmes, le mécanicien et moi, au bureau des EI pour écouter la radio qui marchait au moment où le groupe électrogène était en route. Et c'est ainsi que nous apprîmes les nouvelles par la BBC, puisque nous savions que le poste de Paris était pris par les Allemands, et nous entendîmes l'appel de Churchill proposant l'union franco-britannique, et puis enfin, le fameux appel du général de Gaulle. Je me rappelle avec le lieutenant et l'autre, nous nous mîmes à pleurer d'émotion parce que, perdus comme nous l'étions à 550 km de Casa, nous avions complètement perdu tout contact avec l'Europe. Et c'est ainsi que nous entendîmes une deuxième fois l'appel, je crois, deux jours après.
Nous nous transportons à l'étranger, pas bien loin, à Fribourg, en Suisse. Là se trouve Georges Kataoui, qui devait, depuis, être l'un des biographes et l'un des meilleurs biographes du général de Gaulle. Il va nous dire quelle a été l'impression produite par l'appel du 18 juin dans la colonie française qui habitait alors la Suisse et parmi les Suisses eux-mêmes.
Je n'ai pas entendu, hélas, l'appel du 18 juin. Et pourtant, me trouvant malade à Fribourg, j'étais constamment à l'écoute de la radio française. Mais je ne pouvais soupçonner que ce jour-là, la voix de l'espérance nous viendrait de Londres. En revanche, dès le 17 juin au soir, j'avais rencontré un diplomate suisse, Jean-Daniel de Montenac, décédé depuis, qui m'avait annoncé qu'il venait de recevoir un coup de téléphone de Bordeaux. Et ce coup de téléphone lui apprenait que le gouvernement que le maréchal Pétain formait allait demander l'armistice. Et j'étais bouleversé en me demandant ce que deviendrait la flotte française. Je ne pouvais me résigner à cette idée de l'armistice. Et le 19 juin, ça a été avec un véritable soulagement que j'ai lu dans la presse suisse que le général de Gaulle avait adressé de Londres son appel. C'est à partir de ce moment-là que j'ai entendu parler de cet appel, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai entendu les appels subséquents, et surtout, presque chaque jour, les commentaires de son porte-parole, Maurice Schumann, dont je connaissais bien la voix, puisque, comme vous-même, nous avions eu le plaisir de collaborer avec lui à temps présent. Et alors, j'ai été bouleversé par les appels. Et surtout, c'est un fait qu'il est important de souligner, car très souvent des gens vous disent qu'ils ont entendu l'appel, et la meilleure preuve qu'ils se trompent, c'est qu'ils vous citent ces mots. La France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre. Or, ces mots ne figurent pas dans l'appel du 18 juin, ni dans aucun des appels radiophoniques du général de Gaulle. Ils sont simplement imprimés sur une affiche qui a été placardée sur les murs de Londres à la même époque. D'autre part, il faut bien dire qu'à ce moment-là, les Français qui se trouvaient à Fribourg n'étaient guère favorables à cet appel. L'armistice paraissait, pour la plupart des gens, aussi bien pour les Fribourgeois de nationalité helvétique que pour les Français, comme le seul soulagement, la seule espérance possible, étant donné les malheurs très grands que le pays avait subis. Et je dois dire qu'à l'ambassade de France à Berne, les deux premiers qui ont montré de la sympathie pour l'appel du 18 juin, et dont l'un, je crois, a disparu depuis, étaient messieurs Nérac et Védi. Nérac a été célèbre à un moment donné par ses démêlés avec Bénouville, car il y avait dans la résistance des mouvements très différents. Il y avait également à Fribourg, à ce moment-là, des pères dominicains, et trois d'entre eux ont été favorables dès le premier jour, mais un seul des trois était à ce moment-là de nationalité française, c'était le père Benoît Lavaux, aujourd'hui socius du provincial de France pour le Midi, et grand spécialiste des questions de mystique et d'ascétique. Il y avait également l'abbé Journé parmi les Suisses, qui était le grand ami, on peut dire l'alter ego de Jacques Maritain, et que Paul VI a créé cardinal. Mais il y avait également à Fribourg quelques autres personnalités moins connues qui s'étaient réfugiées, soit pour fuir la relève, soit parce qu'ils étaient condamnés par Vichy à des peines assez graves. Mais je quitte Fribourg, je passe à Genève par exemple, ou à la Croix-Rouge. Nous avions parmi les sympathisants Karl Burckhardt, qui devait un jour être ambassadeur à Paris. Ambassadeur n'est pas le mot, puisqu'à ce moment-là, la Suisse n'avait qu'un ministre. Et Karl Burckhardt a tout de suite, à la Croix-Rouge et ailleurs, montré ses sympathies pour le mouvement du général de Gaulle. Il y avait également, il ne faut pas l'oublier, à Genève, celui qui a écrit ce très beau livre, L'homme du 18 juin, le poète Pierre-Jean Jouve. Et puis, il y avait Pierre Courtion, qui avait fondé le Cri de la France. Et nous avions également, à Lausanne, Gérard Boer, qui a tout de suite penché du côté de De Gaulle.
Mais ce que nous aimerions aussi entendre, c'est la réaction de ceux qui alors ne penchaient pas du tout vers De Gaulle.
Leur réaction était l'indignation. Je me souviens d'un autre personnage qui touchait de près à la Croix-Rouge, qui était tellement indigné, surtout par le choix de la Croix-Rouge de Lorraine, en me disant « ça va faire encore une confusion avec la Croix-Rouge ». C'est bien là encore une des erreurs de ce rebelle. Enfin, la plupart des Suisses, et la plupart, il faut le dire, des Français de Suisse, étaient alors du côté du maréchal.
Quel a été le rapport entre l'appel du général de Gaulle et précisément ce regroupement des Français décidés à résister en Suisse ?
Eh bien, un homme comme Charles d'Aragon, qui se savait condamné à mort, qui m'a même dit au moment du procès Pucheux à Alger, quand je m'inquiétais de savoir si la peine de mort serait vraiment exécutée, Charles d'Aragon n'a pas hésité à me dire, ce que l'avenir a confirmé, que c'était Pucheux qui avait livré les noms de ceux qui ont été exécutés à Châteaubriant. Vous savez qu'au moment du procès d'Alger, on pouvait en douter, on n'avait pas les pièces à l'appui, mais depuis la libération, on les a trouvées. Or, Charles d'Aragon a préféré, lorsque le secrétaire de Pucheux lui a dit « Le maréchal veut épargner le sang de la noblesse française, par conséquent, nous livrerons à votre place 4 communistes et 4 juifs », ne voulant pas se solidariser avec cette offre déshonorante, Charles d'Aragon est parti avec sa femme enceinte pour la Suisse, il s'est réfugié à Fribourg, mais il a eu le courage de repartir sous un faux nom, de traverser la France, la zone dite libre, et d'aller rejoindre les forces françaises libres, où il a de nouveau combattu. De même d'ailleurs que ce Jean-Anné d'Astier-Lavigerie, qui par la suite a été fait prisonnier dans un camp allemand, et a réussi également à s'échapper de ce camp.
Vous considérez en somme, n'est-ce pas, que à l'origine de cette résistance de Suisse, il y a eu tout de même l'appel du 18 juin qui a éveillé l'espérance et en éveillant l'espérance a suscité l'action.
Sans conteste, à ce moment-là, parmi ces jeunes gens français qui fuyaient la relève, il y en avait qui ont retrouvé un certain esprit de résistance et qui penchaient déjà, je ne dis pas pour le général Giraud, puisque son nom n'était pas encore connu, il était prisonnier à Königstein, mais depuis sa fuite, nous avons pu savoir que ces jeunes gens étaient rattachés au mouvement de l'armée secrète. Et l'un d'eux, dont je n'ai plus retrouvé la trace, se refusait à accepter l'étiquette de gaulliste, parce qu'il considérait que le meilleur moyen de préparer la rentrée en France dans le combat collectif était cette préparation. Son nom de guerre était d'ailleurs Flamand. En dehors de ces groupes plus ou moins disparates, qui avaient un esprit de résistance, mais qui n'étaient pas nécessairement rattachés à l'esprit qu'on appelle gaulliste, qui n'étaient pas inspirés par l'appel du 18 juin, il y avait des hommes qui venaient de France parce qu'ils étaient, par exemple, rattachés au mouvement de témoignage chrétien, comme Jean-Marie Soutou, dont on sait tout ce qu'il a fait à Genève à cette époque-là.
Ce que je voulais vous demander en conclusion, c'est quelle a été, d'une manière générale, la réaction de la Suisse romande ou alémanique à l'appel du 18 juin.
La plus grande difficulté en Suisse romande a été celle-ci. Les gens les plus francophiles, on sait que René Paillot a toujours été francophile, se trouvaient tout de même enclins à approuver ce qu'avait fait le maréchal, parce qu'ils pensaient que c'était le meilleur moyen d'épargner à la France
des souffrances
nouvelles. Mais d'autres, par leur lecture, qui était en général soit l'Action française, soit Candide, soit Gringoire, penchés vers les idées maurrassiennes. Et c'est pourquoi l'appel du 18 juin a eu beaucoup plus de répercussions en Suisse alémanique, où par exemple la Weltwoche, journal de gauche, ou la Gazette de Zurich, ont tout de suite montré des sympathies avec une liberté assez étonnante si l'on pense à la menace
que la Suisse courait, puisqu'on a parlé souvent d'une invasion possible et qu'elle était cernée de tous côtés par l'armée allemande. Et alors, beaucoup de Suisses alémaniques ont montré dans ces circonstances-là un très grand courage.
Mais il n'y avait pas que la France et l'étranger. Il y avait aussi les possessions qu'avait alors la France à travers le monde, ce qu'on appelait à cette époque l'Empire. On sait ce qu'a été la réaction, au moins officielle, des autorités de l'Empire dans la plupart des territoires. Il y a eu toutefois une exception, et cette exception, ce fut pendant quelques jours l'Indochine, tant qu'elle eut pour gouverneur général le général Catroux, que vous allez maintenant entendre.
Et vous allez voir que le malentendu sur la signification qu'il fallait attribuer à la prise du pouvoir par le maréchal Pétain n'était pas moins grave en Indochine qu'à Paris même.
Oh, c'est extrêmement simple. Il y a eu une méprise totale de la part de moi-même et de l'opinion de l'Indochine, car nous sommes imaginés, lors de la concession du gouvernement du maréchal Pétain, que c'était l'expression d'une volonté inébranlable de continuer la lutte et de ne point renoncer. Le maréchal Pétain est resté pour nous et pour la généralité des Français l'homme qui avait dit à Verdun « ils ne passeront pas », n'ont pas imaginé à un moment qu'on allait déposer des armes. De sorte que ce fut une stupeur complète quand on apprit que le premier acte de ce gouvernement était de demander l'armistice. Et dès ce moment-là, aussi bien moi-même que mes compatriotes français et les autochtones, nous avons eu spontanément la décision de continuer la lutte. Il se trouve que moi je n'ai pas entendu le 18 juin l'appel du général de Gaulle, je ne l'ai connu par les radios que 2 ou 3 jours plus tard, mais par une coïncidence assez singulière, moi-même, ce jour-là, j'adressais à l'Indochine, français et autochtone, un message radiodiffusé par lequel je disais « Je vous sens très inquiet de la situation, de ce qui se prépare en Europe. Ayez confiance, tant que je serai gouverneur de l'Indochine, je n'amènerai pas mon pavillon. » Et pour bien affirmer la chose, j'avisais Vichy aussitôt que les accords de coopération franco-britanniques en ce qui concerne l'Indochine demeuraient, que j'ai appliqué, et je faisais connaître au gouvernement britannique, à la date du 20 juin, qu'il pouvait compter sur mon entière coopération et que l'Indochine rentrait dans la guerre. Et afin que le gouvernement de Bordeaux n'en ignorât rien, car le maréchal était à Bordeaux à ce moment-là, j'ai envoyé copie de ce télégramme à Bordeaux, lequel ne répondit pas. En un mot, je puis vous dire qu'à ce moment-là, la volonté totale de l'Indochine était de continuer la guerre et ne pouvait pas accepter l'armistice.
De sorte que la même chose aurait pu sans doute se produire dans d'autres parties de ce qu'on appelait alors l'Empire, dans le cas où l'attitude des gouverneurs généraux eût été la même que celle du général Catroux.
Je pense comme vous que si les autres parties de l'Empire avaient adopté une attitude de résistance, les choses auraient été complètement changées. Ayant appris par la radio que le général Nogues, au Maroc, protestait contre l'armistice et qu'il déclarait en particulier qu'il ne pourrait l'accepter que le rouge au front, n'ayant pas combattu, je lui ai envoyé mes félicitations. Et là, s'il avait changé d'avis, car son télégramme de réponse fort sec fut rédigé en substance de la manière suivante, « Vous vous trompez, j'exécute l'armistice. » Je m'adressais au général Mittelhauser, qui commandait à ce moment-là l'armée de Syrie, et je lui dis, je viens d'apprendre que vous acceptez l'armistice, envoyez-moi des avions dont j'ai absolument besoin. » Il me répondit que ça lui était impossible. Le gouverneur général Kella, qui était à ce moment-là à Dakar, ne me répondit pas. En bref, je crois que je fus le seul dans la circonstance, à la date du 18 juin, au moment même de la demande d'armistice, à prendre cette position. Je ne peux que le regretter pour l'avenir même de la guerre. Car si l'Empire avait été compact, non seulement la France resterait au combat, mais le général de Gaulle, qui avait pris la tête de cette résistance, aurait été à parité avec les Alliés et n'aurait pas eu à livrer les batailles considérables qu'il a eu à faire pendant toute la guerre pour rétablir la France combattante dans sa situation de France égale en souveraineté à nos Alliés.
Vous venez d'entendre le général Catroux évoquer ce qu'aurait pu être la résistance française dans le cas où les territoires d'outre-mer auraient tous suivi l'exemple qu'il donnait lui-même en Indochine. Malheureusement, tel ne fut pas le cas. Non seulement les autres territoires de la France d'outre-mer suivirent le maréchal Pétain dans l'armistice, mais le général Catroux lui-même, au bout de quelques jours, fut révoqué de son poste de gouverneur général en Indochine et dut céder la place à l'amiral Decoux. De telle sorte que, d'un bout à l'autre de ces territoires d'outre-mer, c'était l'acceptation de la défaite. Et par conséquent, comme il vient de le dire, d'énormes difficultés pour le général de Gaulle. Mais il y a une chose qu'il faut retenir, et que vous avez certainement retenu des témoignages que vous venez d'entendre. C'est que un vide avait été comblé, c'est que une flamme avait été rallumée, même si cette flamme jetait encore peu d'éclat, et c'est ce que le général de Gaulle lui-même appelait la flamme de la résistance française. Désormais, quoi qu'il arrive, cette flamme ne s'éteindra plus. Et elle finira par devenir un brasier, elle finira par devenir un véritable incendie qui a couvé pendant 4 ans, et qui éclate au jour, au moment du débarquement des Alliés sur les côtes de la Manche et sur les côtes de la Méditerranée, et lorsque le général de Gaulle, au mois de juin 1944, put enfin remettre le pied sur le sol de la France libérée à Bayeux, il pouvait en même temps contempler ce qu'avait été le résultat de la collaboration d'une grande pensée et d'une grande foi solitaire avec la volonté obscure, mais tenace, mais obstinée des meilleurs éléments venus de droite et de gauche d'un grand peuple qui ne consentait pas à mourir. L'appel du 18 juin a été le témoignage de la continuité de la France.
Il y a 25 ans, le 18 juin 1940, France Culture vient de vous présenter une émission historique composée par Jacques Madaul, avec les témoignages de Emmanuel Dastier de la Vigerie, Max Bégouin, Georges Kataoui, du général Catroux, de Madame Francisque Gay, Roger Langeron et Maurice Schumann. Texte lu par Michel Sansnahor. Document sonore de la phonothèque centrale de l'ORTF. Assistant de production Jacques Devin. Réalisation Paul Ventre.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 juin 1965.